Bonjour, bienvenue à la grotte de la Cocalière, à Coury, à la limite du Gard et de l'Ardèche, dans le parc national des Cévennes. Une merveille de la nature qui figure parmi les plus belles grottes de France. Une grotte qui continue de se transformer depuis 35 millions d'années. Ici, vous êtes sur un site naturel protégé, vous devez en prendre soin. Sur le sentier découverte, vous allez mieux comprendre les échanges entre surface et profondeur, entre milieu épigée, au-dessus de la terre, et milieu hypogée sous la surface du sol, parce que tout est lié. C'est dessus-dessous, dessous-dessus. Alors attention, vous mettez les pieds, parce que la vie s'installe partout. Même là où les ressources alimentaires sont rares, vous allez découvrir des défis biologiques étonnants. Sous terre, à part les nypharguses, ces petites crevettes, vous ne verrez peut-être pas les autres habitants des lieux. Ils sont tout petits. Les scientifiques, eux, les cherchent, les trouvent et les répertorient. Des études sont menées sous l'égide de l'association Paillolive qui a intensifié sa relation avec la grotte depuis une dizaine d'années. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vous offrons une balade avec des entomologistes spécialistes des cavernicoles à la recherche d'espèces endémiques pour compléter l'inventaire commencé dans les années 1900. D'abord, préparation. Casque, combinaison, harnais, baudrier, corde et micro pour nous raconter.
C'est qui la vedette?
C'est Philippe Leclerc, bio-spéléologue.
Dorian, t'oublies pas la torche? Elle est là. Là. Enfin, si tu veux pas, t'en veux pas, tu la prends pas. Hein. Ouais, prends-la, c'est mieux en avoir deux. Bon, j'ai l'impression d'oublier quelque chose.
Mais oui, Philippe, vous oubliez vos chaussures de rechange. C'est en chaussettes toutes trempées que vous ressortirez de la grotte.
J'allais oublier. J'ai pas fini.
Henri-Pierre Haberlinck, entomologiste.
C'est pas là. Alors, ça, c'est mes pompes. Ça, c'est en rab. Hop là.
Oh là là, quel joli panier.
Ah, celui-là, il m'accompagne depuis au moins 50 ans.
Mais il a servi à quoi, ce panier?
C'est un panier de pêcheur, mais qui sert pour les insectes. Hop. Oh là! Il a vu du pays et il a vu des bestioles.
Allons-y!
Partons en quête de nouvelles espèces d'arthropodes. Plongeons dans les profondeurs, 50 mètres sous terre, température 14 degrés, silence et obscurité. C'est parti pour la descente, 252 marches.
En plus, il nous a branché la lumière.
C'est grand luxe, hein? Ah, en temps habituel, la porte là est fermée, d'accord.
Ouais. Bah, faut la caler. Voilà, la dernière fois que j'étais venu tout seul, je l'avais calée. Mais avec le courant d'air, je me méfiais. Je me suis dit, je vais me retrouver coincé. Donc là, on rejoint la galerie naturelle. Là, bah, là on va donc essayer de faire compléter l'inventaire faunistique de la cavité.
Ça veut dire qu'il a été commencé quand, cet inventaire?
Dans les années 1900, oui. Par le professeur Janel. Je crois vers 1904, quelque chose comme ça.
Mais pas dans cette partie-là, qui n'était pas connue, dans une partie qui est le réseau, ce qu'on appelle le réseau inférieur, où on ne va pas aller aujourd'hui, qui est inaccessible par ici, qui était accessible à l'époque.
Il y a plus d'un siècle.
Il y a des chercheurs qui sont passés régulièrement.
Combien d'espèces répertoriées aujourd'hui?
Alors là, on approche de la cinquantaine de taxa. Pas tous identifiés au niveau de l'espèce. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a tel groupe qui est présent, mais on n'a pas forcément l'identification au niveau spécifique. Mais ça fait déjà un très très bel inventaire. Hein, c'est une des cavités de la région qui a le plus gros cortège faunistique. Vous allez voir, donc on a une diversité d'habitats, oui, dans la cavité, oui, qui font qu'on a beaucoup d'espèces qui se sont installées dans différentes niches. Et là, vous allez voir, il y a de l'habitat aquatique, il y a des parois stalagmitées. Hein, donc, quand on cherche, c'est temporaire. Et puis nous, on cherche plutôt à les déranger pour les voir. Donc, on a tout intérêt à essayer de les déranger pour les voir. Donc on utilise la lumière, on utilise le souffle aussi souvent. On souffle sur la paroi ou des choses comme ça parce que ça va faire fuir les animaux et donc on les voit mieux comme ça.
Est-ce que toutes ces espèces cavernicoles sont forcément aveugles ?
Les vrais cavernicoles, oui. Ils sont aveugles et dépigmentés. Donc, ils sont de couleur blanchâtre ou jaunâtre, ils n'ont pas de pigmentation. Mais ça, ce sont les cavernicoles vrais, ce qu'on appelle les troglobies, c'est-à-dire littéralement les biotes, les organismes vivants des cavernes. Mais il y a aussi des troglophiles et des trogloxènes qui peuvent vivre à l'extérieur, mais qui aiment régulièrement aller dans les grottes. Par exemple, certains papillons sont régulièrement trouvés dans les grottes, mais il y a forcément une partie de leur cycle vital qui est à l'extérieur, puisque leur chenille se nourrit sur des plantes qui sont à la surface. Et en plus, ce ne sont pas tous les papillons, c'est un spectre très restreint d'espèces de papillons qu'on retrouve dans les grottes où ils aiment s'abriter au stade adulte. Puis il y a aussi certains animaux qui peuvent faire soit leur cycle vital entièrement dans la grotte, soit leur cycle vital entièrement hors de la grotte. C'est indifférent, alors eux, c'est les troglophiles. Mais les vrais cavernicoles ne peuvent vivre que dans les grottes. On oppose le milieu hypogée, le milieu souterrain, au milieu épigée, au-dessus de la terre ou en dessous. Beaucoup de gens qui vont dans les grottes, même des spéléos, ne font pas attention. Alors, parfois, les bêtes sont tellement abondantes qu'ils ne peuvent pas les rater. Ils en voient quand même, mais rarement. Quand on les cherche vraiment, on les trouve. Beaucoup, par exemple, de coléoptères troglobies, donc ceux qui ne peuvent pas sortir de la caverne, beaucoup de troglobies ont une résistance au jeûne extraordinaire. Parce qu'ils doivent pouvoir vivre dans un milieu où ils peuvent passer des mois sans trouver de nourriture. Et avec une capacité, comme les chameaux pour l'eau, de gérer la nourriture en des repas pantagruéliques qui vont leur permettre de tenir. Et alors le record, c'est le fameux colambol que tu as retrouvé récemment, qui en élevage a tenu plus d'une année sans manger avant d'être réalimenté à nouveau. Donc ils ont des capacités extraordinaires de ce côté-là. Alors les diaprisus, on en verra sans doute. Les diaprisus ont un mode de reproduction extraordinaire parce que la femelle pond un œuf unique, évidemment quand elle a bien mangé. Elle pond un œuf unique, d'où il sort une larve qui mue en une autre larve, qui mue en une nymphe et qui mue en un adulte sans jamais s'alimenter. Ça veut dire que dans l'œuf, il y a déjà de quoi fabriquer un adulte. Alors vous imaginez bien que la femelle ne pond qu'un œuf à la fois. Alors ça, c'est un mode de reproduction extraordinaire. Alors la corollaire de ça aussi, c'est qu'ils vivent très vieux. Un hanneton, au bout de 3 semaines, il est mort. Alors que les cavernicoles, ils vivent plusieurs années. Ce qui, pour des petits arthropodes, est tout à fait extraordinaire. Mais ça fait partie de toutes les adaptations morphologiques et physiologiques et sensorielles à ce milieu incroyable, quoi. Donc une capacité de jeûner, une longévité. Mais alors, le corollaire aussi, c'est qu'il y a un métabolisme ralenti. Ils peuvent courir vite s'ils sont stressés, mais pas longtemps. En général, c'est des organismes qui se baladent tranquillement, lentement. Quand on a daté, par exemple, sur la rive droite des gorges de l'Ardèche, il y a Diaprisus cerulasi, sur la rive gauche, il y a Diaprisus caudatus. Quand on date avec l'horloge moléculaire de l'ADN, l'âge de différenciation des deux espèces, c'est-à-dire à quelle époque il n'y avait qu'une seule espèce qui a donné ces deux, on tombe sur 5 millions d'années. Et 5 millions d'années, ça correspond au creusement des gorges de l'Ardèche à l'époque messinienne. Donc, les gorges ont créé un obstacle qui a séparé deux populations qui ont divergé en deux espèces. Et c'est un processus qui s'est entamé, de divergence qui était bien entamé déjà il y a 5 millions d'années. Donc vous voyez, les espèces, surtout ce monde cavernicole qui est un monde conservateur, où le chronomètre n'est pas arrêté mais ralenti pour le vivant, les évolutions se font sur des millions d'années.
Ce monde souterrain est fascinant. Finalement, la faune est riche, pas par la quantité, mais par la qualité, par cette originalité, cette incroyable adaptation à vivre en milieu obscur. Alors aujourd'hui, vous aimeriez trouver quoi ?
Là, on a donc dans le réseau, surtout dans le réseau inférieur, puisque c'est une rivière souterraine, on a ce qu'on appelle des stygobies, donc la variante de troglobie, mais pour le monde aquatique. On a des espèces endémiques de la cavité, c'est-à-dire qu'on ne les connaît que de cette cavité-là.
Dans le monde entier, elles ne sont qu'ici.
Probablement parce qu'elles se sont fortement diversifiées parce qu'elles ont une très, très longue période d'isolement, ce qu'évoquait Henri Pierre, et donc elles se sont diversifiées, c'est-à-dire que l'espèce qui est restée sur la Coquelière n'est pas la même que celle qu'on va trouver dans les gorges de l'Ardèche ou ailleurs. Donc il y a une très forte diversification et on a ce qu'on appelle de l'endémisme, c'est-à-dire qu'il y a une espèce qui est vraiment caractéristique. Alors, on a deux, trois espèces, on a aussi dans les terrestres, on a des choses qui sont endémiques, mais plus d'un petit périmètre autour de la grotte de la Coquelière. Donc notamment mille pattes, des choses comme ça.
Le Diaprisius fagei, par exemple, est endémique non pas de la Coquelière, mais du bassin de la Clèce. C'est-à-dire le bassin dont la Coquelière est la plus grande rivière, hein. Enfin la plus grande cavité. Mais par contre, le type du Diaprisius fagei est de la Coquelière. Alors le type, c'est le spécimen numéro 1 par lequel on a défini l'espèce. C'est un peu le maître étalon d'une espèce, un type. Et c'est le spécimen, le maître étalon de l'espèce Diaprisius fagei qui est endémique du bassin de la Clèce, mais il a été trouvé dans cette grotte. Alors la localité dans laquelle on trouve le type d'une espèce, on l'appelle la localité type. Ça s'ajoute au palmarès de la grotte. La grotte est la localité type de plusieurs espèces, le Diaprisius fagei, une bâtinelle, etc. Ça en fait un site patrimonial aussi à cet égard. C'est l'endroit où il y a le maître étalon qui définit une espèce.
Sur ces petits crustacés qu'on trouve dans la rivière souterraine, et dans les sédiments de la rivière souterraine, on a une espèce qui a été décrite, il y en a une autre qui n'a pas pu être décrite parce qu'on n'avait que très peu d'exemplaires et on n'avait pas les deux sexes, hein, donc on ne pouvait pas la décrire. Donc on sait qu'elle est là, mais elle n'est pas encore décrite. Donc on aimerait bien la retrouver et on aimerait bien savoir, ces micro-crustacés, ils occupent différentes niches dans le milieu souterrain. Certains vont vivre dans les sédiments de rivières souterraines, c'est le cas de l'espèce décrite. Mais il y en a qui vivent aussi dans les flaques d'eau qui sont hors de toute circulation permanente. On voudrait savoir un petit peu plus, en savoir un petit peu plus. Est-ce que c'est les mêmes espèces, est-ce que c'est pas les mêmes espèces que celles qu'on trouve dans la rivière souterraine. Voilà, c'est ces choses-là qu'on aimerait un petit peu plus aller un petit peu plus loin. Et puis il y a d'autres espèces. La faune aquatique souterraine est très mal connue. Et on sait pourtant que c'est probablement la faune la plus diversifiée.
Avec le plus d'endémiques.
Avec le plus d'endémiques qu'on va rencontrer sous terre.
Alors il faut préciser qu'à quelques exceptions près, c'est une faune minuscule dont les dimensions sont de l'ordre du millimètre.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne va rien voir. On va...
À l'œil nu, on ne voit rien.
On fait du filtrage avec un filet à plancton. Et on va après regarder ça sous la loupe.
Parce qu'après, ça doit être étudié au microscope, voire on doit en extraire l'ADN. Enfin, vous voyez, donc on a forcément la nécessité d'avoir des échantillons.
La PCR, dont on a bien parlé pendant le Covid, est là pour nous aider. C'est-à-dire qu'on part de très peu d'ADN et on peut l'amplifier. Donc c'est le principe de la PCR. Hein. On va l'amplifier et arriver à des quantités qui sont beaucoup plus facilement exploitables.
La plupart de ces espèces sont minuscules, comme je disais, c'est de l'ordre du millimètre. Alors vous imaginez les jeunes qui sont encore plus petits, c'est les adultes qui sont de l'ordre du millimètre. Mais il y a quelques espèces qui sont grosses. Alors les fameux Niphargus font à peu près autour du centimètre. On en verra certainement et on en verra à l'œil nu. Je pense qu'il faut, continuer à accumuler des Niphargus pour le jour où soit des gens vont se mettre pour de bon à faire la systématique des Niphargus, soit auront des outils conceptuels.
Là, on est typiquement sur un troglodyte, hein, donc c'est une petite grenouille.
Pour moi, c'est, je dirais même pas troglodyte, je dirais une bête de l'extérieur tombée accidentellement dans la grotte.
Alors moi, je suis prudent parce que là, il y a un petit peu de divergence, mais c'est vrai qu'on rencontre fréquemment dans les entrées de grotte des amphibiens. Ça peut être des salamandres, ça peut être des crapauds, ça peut être des grenouilles. Apparemment, ils subsistent très très bien.
C'est vrai que la grotte offre une fraîcheur et une humidité qui est propice aux batraciens. Dès l'instant que la visite devient systématique, on peut parler de troglodyte. Ouais.
Une douceur. Voilà, là il y en a. Ouais.
Ah bah tiens, on les voit à l'œil nu.
Voilà, il y en a des beaux là, ouais.
On a marché dessus, ouais. Ah ouais, c'est fou ça.
Tu veux en récupérer?
Bon, alors là, on va pêcher un peu. Hop, voilà. Mais ça, c'est vraiment énorme hein, comme espèce. Alors, ils n'aiment pas du tout la lumière. Vous avez vu comme ils sont vifs, hein. C'est pas évident d'en prélever. Et voilà, bon, j'en ai trois.
Pour l'instant, ça suffit. Hein.
Qu'est-ce qu'il y avait, là?
Non, un isopode. Hein. C'est la famille des cloportes, hein, donc... Alors, bon, l'espèce est connue, hein, c'est Oritoniscus, donc Virei. Donc, il est assez commun. Hein, donc, ouais. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de soulever le caillou qui est là. Mais...
Parce que les bêtes se mettent souvent sous les pierres.
Les biospéléologues sont souvent le cul en l'air.
Oui, c'est ça.
À quatre pattes, le cul en l'air, voilà. Et le nez au ras du sol. C'est où que tu voulais faire ton filtrage ?
C'est dans le lac du Camp, c'est plus loin.
Oui, donc, disais-je, là j'en ai prélevé trois. C'est bien, quand on en voit, on ne va pas les chercher exprès, mais si on en voit, hop, on se constitue une collection pour plus tard. On n'est pas chez nous, mais on est chez les cavernicoles ici.
Ici, dans ce lac-là, c'est là que j'ai retrouvé une des bâtinelles, donc un de ces micro-crustacés. Alors bon, il y a les Niphargus hein, qu'on va voir. Normalement, il y en a pas mal. On en voyait un là qui se carapatait. Là. Et c'est le seul endroit pour l'instant de cette partie-là du réseau où j'ai pu retrouver les micro-crustacés. Encore, j'ai un exemplaire.
Il va prélever du sédiment pour chercher des bâtinelles. Ah oui, non, mais là, ce qu'il va faire est très intéressant. Allez, on dépose le matériel.
Je vais me mettre là-bas. Je vais me mettre là-bas parce que c'est plus accessible. Je ne vais pas aller dans l'eau, je vais me passer sous la rambarde. Là. Donc là, moi, je sors mon petit matériel qui est extrêmement compliqué. Hein, donc, une petite bassine, une petite écope. Voilà, et je le lave. C'est un lavage de sédiments, en fait. Hein. C'est aussi une des difficultés de la recherche en biologie souterraine. C'est que c'est un milieu qui n'est pas très très facile à investiguer et faire des protocoles très rigoureux.
Alors, vous remarquez qu'on ne voit pas ce qu'on prélève.
Mais c'est ça.
On prélève en aveugle complet, c'est après Philippe sous le bineau qui va trier tout le matériel recueilli, le sable, l'argile, pendant des heures de travail laborieux sous optique consistante et qui va extraire les échantillons de micro-crustacés aquatiques, de tout ça. Vous voyez, c'est très laborieux et on travaille totalement en aveugle.
Voilà.
Alors, ça illustre quelque chose qui n'est pas seulement vrai dans les grottes, mais qui est vrai aussi à la surface, dans le milieu épigé, c'est-à-dire que l'essentiel de la biodiversité est caché. On se promène dans une forêt, on ne voit que moins que la partie émergée de l'iceberg en biodiversité. La plupart des animaux sont cryptiques, sont cachés. Et il faut employer des méthodes plus ou moins bizarroïdes pour arriver à les trouver. La plupart des bêtes, on ne les voit pas. On ne voit pas la faune, en fait. On n'en voit qu'une toute petite partie. Et là, c'est un exemple flagrant. Ça doit grouiller de vie, ce sédiment, mais on n'imagine pas tous les micro-crustacés qui y vivent. On ne les voit pas.
Et là, vous les dérangez vraiment, là ?
Il y a un dérangement, mais si vous réalisez la durée du dérangement, c'est un prélèvement extrêmement ponctuel. Moi, je fais une comparaison, c'est comme si on vous prélève 3 cm cubes de sang pour une analyse médicale. On ne prélève pas tout votre sang, on en prélève une dose qui n'est pas nuisible pour l'écosystème qui est votre corps. Ben là, c'est pareil, on prélève une dose infime qui nous permet de savoir quelle est la faune, mais l'échelle de prélèvement est tellement minime que... On fait en sorte que l'impact sur la faune globale soit minimisé, tout comme on n'a pas besoin de vous vider de votre sang pour faire une analyse de sang.
En fait, c'est un mini filet à plancton que tu as, quoi.
Là, on est sur des mailles très fines et on récupère que le plancton et tout ce qui est au-dessus, évidemment.
Ce sont des bêtes, quand je dis qu'elles font 1 mm de long, il ne faut pas oublier qu'elles sont extrêmement étroites et allongées. Donc, leur dimension en largeur est vraiment microscopique, quoi. Donc il faut vraiment que les mailles soient étroites si on veut intercepter les bestioles.
Mais il arrive que quand vous fassiez ça, vous rentrez et vous n'avez rien en fait ?
Ça arrive. Hélas, ça arrive un peu trop souvent même.
Ah, mais ce ne serait pas marrant si on gagnait à tous les coups. On est dans le pari total. On est en aveugle puisque ces bêtes, on commence à peine à soupçonner l'existence des espèces. On n'en est pas à connaître le détail de leur biologie. Les paramètres qui font fluctuer les populations animales nous échappent totalement, quoi. Le vivant est furtif, le vivant ne se laisse pas mettre en équation. Et nous, on fait surtout du qualitatif et du semi-quantitatif. Mais on n'est pas dans le quantitatif de la physique et de la chimie, quoi. On n'en est pas à 5 chiffres après la virgule.
Et alors là, Philippe, vous avez combien de petites fioles ? Là, vous avez prélevé combien ?
Ben là, j'ai pris dans une seule petite fiole hein, qui correspond donc à cet endroit-là. Il faut voir que cette grotte elle a été parcourue par des biospéléologues de tous niveaux et voir des gens qui étaient vraiment très performants. Et ils n'avaient pas trouvé certaines espèces. Et puis, c'est nous qui les avons trouvés, quoi. Donc voilà, je pense que c'est jamais fini, quoi.
Quand on trouve quelque chose auquel on ne s'attend pas, c'est fortuit. Mais alors après, on le cherche.
Oui.
On sait que tel type d'organisme existe, donc on se met à le chercher. Et ce qui fait qu'on a pu passer à côté d'un tas de faune pendant très longtemps, parce que simplement, on n'avait même pas idée que ça pouvait exister, qu'il fallait le chercher.
Philippe est biospéléologue, mais vous, Henri-Pierre, vous êtes entomologiste. Les insectes, vous les cherchez en surface aussi.
Oui, mais alors c'est pas du tout la même faune. Il y a beaucoup plus d'espèces et de biomasse, puisque à la surface, il y a la photosynthèse et les plantes. Donc comme c'est le point de départ des chaînes alimentaires, hein, la photosynthèse, c'est le point de départ de la majorité des chaînes. Il y a des chaînes sans photosynthèse, mais c'est très marginal. Mais ici, il n'y a pas de photosynthèse. Alors la nourriture, c'est le peu qui arrive de la surface, soit dans l'eau, dilué dans l'eau, les substances nutritives biologiques diluées dans l'eau, soit les crottes des mammifères, soit les cadavres des mammifères. Ça ne fait pas beaucoup. Bah, c'est suffisant pour une faune qui a peu de biomasse et peu d'espèces. Ça ne serait pas suffisant pour autant de biomasse et d'espèces qu'il y a en surface, où on mesure les biomasses en kilos et hectares. Ici, ce n'est pas pensable. C'est en grammes pour des réseaux énormes. C'est une adaptation de la vie à un milieu austère où il n'y a pas grand-chose à manger. Et donc, du coup, il n'y a pas beaucoup d'espèces. Et du coup, les espèces n'ont pas beaucoup de biomasse.
La grotte de la Cocalière, c'est ce joyau. Au départ, un petit grain de sable devenu une perle des cavernes, gardée précieusement par Jérôme et Christophe, les fils de Christian Bouquet qui, avec André Marty, la découvrent dans les années 50. Le rêve se perpétue et il est essentiel de scruter les moindres mouvements.
Et oui, bien sûr, il faut perpétuellement se balader sous terre avec des spécialistes et scientifiques. Et comme aujourd'hui, avec des entomologistes, spécialistes des cavernicoles, la partie à la recherche peut-être d'espèces endémiques, comme on a déjà trouvé ici sur le lieu de la grotte de la Cocalière, des bâtinelles. Alors aujourd'hui, c'est parti, puisque la semaine dernière, il y avait eu une forte précipitation. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé justement après ces pluies, si certains cavernicoles sont de sortie ou pas. Ça permettra justement aux visiteurs, mais là, plutôt sur le sentier découverte, de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe ici sous terre. Et pour bien comprendre ce qui se passe aussi en dessus, pour ne pas abîmer et protéger le dessus, il faut savoir que sous terre, il y a une vie qu'il faut préserver, bien sûr, pour à l'heure actuelle et pour les générations futures, bien sûr.
Dessus, dessous, la vie est partout. Merci Christophe Bouquet pour cette formidable expédition. L'heure est au bilan. Alors Philippe, alors Henri-Pierre, a-t-on réussi aujourd'hui à compléter l'inventaire avec de nouvelles espèces endémiques ?
Oui, on a rajouté une espèce à l'inventaire de la cavité, c'est le Campodea procera. Bon, soit c'est pas révolutionnaire parce que c'est une espèce classique dans les cavités du sud Ardèche et du Gard, mais enfin, elle n'était pas à l'inventaire, ça fait une espèce de plus qui enrichit encore un inventaire qui était déjà très riche. Et la pauvre bête était en train de se noyer dans un gout, en fait. Il n'arrivait pas à s'en sortir.
C'est un terrestre qui vit plutôt sur l'argile, souvent sous les pierres un petit peu, et puis s'il y a des débris végétaux ou des choses comme ça, voilà, on le trouvera là, quoi.
Alors c'est un troglobivrai, il est complètement blanc et dépigmenté et il est d'assez grande taille. C'est un des plus gros troglobies terrestres de la région, sinon même le plus gros en fait. En bas grande taille, avec les antennes vers l'avant et les cerques vers l'arrière, il peut dépasser le centimètre.
Oui, il peut dépasser le centimètre, ouais.
Ce qui est énorme pour un cavernicole terrestre. Après, arrivé au laboratoire, on les trie parce que le flacon de collecte, il est plein d'argile. Toutes les bêtes sont mélangées, donc on les trie par catégorie taxonomique. On sépare les crustacés, les insectes, les myriapodes, les arachnides. Et puis après, on va plus loin jusqu'à la famille, au genre. Et si on peut, à l'espèce, si on arrive à les identifier à notre niveau. Sinon, on a autour de nous un réseau de collègues spécialisés chacun dans telle ou telle famille, telle ou telle classe, tel ou tel ordre. Et qui va nous identifier, alors jusqu'à l'espèce, les bêtes que nous, on a identifiées qu'à l'ordre ou à la famille, et qui ne sont pas de notre spécialité. Si je trouve, par exemple, un pseudo-scorpion, ça n'est pas ma partie, je le mets de côté,
et je le passe à Philippe qui en est spécialiste. Il y a des publications et puis après nous on publiera nos résultats dans des revues ou dans des livres.
Et maintenant en plus il y a des structures donc pour répertorier toutes les trouvailles donc au niveau du Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc on peut enregistrer et du coup on a une grosse base de données nationale où sont enregistrées toutes les trouvailles justement. C'est vraiment un travail actuellement qui est en cours, vraiment.
Oui, nos observations, il faut laisser soit une trace écrite de ce qu'on a trouvé, soit une trace informatique sur une base de données. Mais pour que ceux qui viennent après nous puissent s'appuyer sur ce qu'on a fait et pas tout recommencer à zéro, tout comme nous, on s'appuie sur les spéléos dans la région qui nous ont précédés, depuis Janel et même depuis le 19e siècle. Il y en a eu aussi au 19e siècle avant Janel et tout le long du 20e siècle.
Philippe, Henri-Pierre, pour conclure, quel message auriez-vous envie d'offrir aux visiteurs de la Cocalière ici à Coury ?
Eh bien qu'il existe sous terre un monde vivant, une faune riche non pas par la quantité, mais par la qualité, l'originalité et l'extraordinaire adaptation. Parce que vivre dans un milieu obscur où les ressources alimentaires sont rares, c'est un défi biologique extraordinaire et la vie l'a relevé. La vie va vraiment partout. Et à chaque fois qu'il y a des contraintes extraordinaires, il y a des réponses physiologiques, métaboliques, morphologiques, comportementales à ces terribles contraintes d'un milieu qui n'est quand même pas extrêmement hospitalier. Et c'est extraordinaire de penser que la vie est également là, dans des conditions un peu extrêmes.
Je pense plutôt à ceux qui vont faire du tourisme souterrain, donc qui vont faire de la spéléologie. Là, il faut qu'ils soient conscients qu'ils peuvent dégrader. Alors, on a fait des gros progrès. Par exemple, on utilisait avant des lampes à carbure. Dans des réseaux comme ça, on trouvait des amas de vidange de lampes et qui ont fait des dégâts considérables dans le milieu souterrain. Bon, maintenant, on ne fait plus ça. Mais voilà, il faut que les gens qui font de la spéléologie sportive, beaucoup d'agences de tourisme actuellement offrent ce genre de prestations, il faut qu'ils soient conscients qu'ils sont dans un milieu fragile et vivant.
Oui, la grotte est vivante, vous l'entendez ? Elle vous parle. Elle vous parle depuis la nuit des temps. Et les échanges entre surface et profondeur n'en finissent pas. La vie est partout, même dans les conditions extrêmes. Ce podcast est là pour que vous trouviez votre place ici, à la grotte de la Cocalière, une des plus belles grottes de France. À bientôt !